L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM, l'émission, le magazine de Radio Évasion. Il y a du LEM dans le gaz, ou plutôt du gaz dans le LEM. Le gaz naturel qui en chauffe beaucoup d'entre nous. Certes, cette énergie est appelée à s'éteindre petit à petit dans nos foyers, car les nouveaux logements ne pourront plus être chauffés au gaz, en tout cas en France. Mais ce n'est pas pour tout de suite. En attendant, il reste de nombreuses habitations qui utilisent cette énergie fossile. Et donc, il faut la payer. Et les tarifs sont pour l'instant en partie réglementés. Et ça ne va pas durer. On commence à en percevoir les signes du côté du courrier, ou parfois en porte-à-porte, ou par téléphone. Notre partenaire, l'association CLCV Consommation, Logement et Cadre de Vie, va nous aider à y voir plus clair, en particulier Valérie Boulge, qui est juriste pour l'association. Bonjour Valérie.
Bonjour Véronique.
Alors qu'est-ce que ça signifie déjà pour commencer un tarif réglementé ?
Alors, je ne sais pas s'il y a une définition exacte, mais le tarif réglementé, ça veut dire que c'est un tarif qui est fixé par l'État. Tout simplement, donc il existe pour le gaz et pour l'électricité. C'est-à-dire que pour le gaz, je crois que ça fonctionne, ça change en fait tous les mois. Et pour l'électricité, ça doit changer, il doit avoir une modification deux fois par an à peu près. Donc auparavant, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, il y avait eu un rappel en fait de facture en électricité, puisque le gouvernement, je crois que c'était en 2014, je crois, avait refusé, sur avis de la CRE, donc la Commission de Régulation de l'Énergie, d'augmenter le tarif de l'électricité à peu près 5%. Donc il l'avait augmenté de 2,5%. Donc, traduction, en 2017, quelque chose comme ça, je ne suis pas sûre des dates, on s'est tous retrouvés, en fait, à avoir un rappel de facture d'électricité pour des consommations antérieures. Même si on avait changé de fournisseur, on a eu à devoir payer. Et, comment dire, donc on a changé un petit peu les choses. Maintenant, le tarif réglementé, c'est la CRE, donc la Commission de Régulation de l'Énergie, qui va le voter, enfin qui va le décider. Alors évidemment, le ministre de l'Économie peut décider de voter contre, mais ce n'est plus l'État, sur avis de la CRE, qui décide du tarif, mais l'inverse, pour éviter qu'on se retrouve dans cette situation où beaucoup de consommateurs se sont vus répercuter une augmentation qui avait été refusée par le gouvernement quelques années auparavant.
Pour des raisons politiques. Donc là, c'est moins politique, on va dire.
Alors, c'était politique, c'était pour les consommateurs. C'est vrai qu'ils devaient trouver que 5% d'augmentation, c'était une augmentation trop importante. Mais pour autant, comme ça a été retoqué par le Conseil d'État quelques années après, on se retrouve a posteriori et à devoir payer pour des factures antérieures. Donc oui, ça pour éviter un petit peu ce genre de choses.
Et sinon, avoir un tarif réglementé pour l'énergie, quels sont les avantages à ça ?
Alors les avantages, je dirais que c'est ce qu'il faut voir dans le tarif réglementé, moi je dirais que c'est un repère. C'est une mesure étalon qui permet justement, quand on a plusieurs offres, on se sert en fait de cette offre-là comme repère. C'est-à-dire, je sais pas, l'offre d'un autre fournisseur alternatif, tiens, elle est tant de pourcents moins chère que celle-là. C'est le repère, c'est une sécurité, c'est le produit en fait qui est vendu par ce qu'on appelle des fournisseurs historiques. Alors les fournisseurs historiques, c'est, on va essayer de refaire un petit peu d'histoire un peu là-dessus. On a pour l'électricité, donc on a EDF, et pour le gaz, on a Engie, anciennement GDF ou Gaz de France, pour ceux qui s'en souviennent. Alors avant, EDF et GDF étaient ensemble, ils se sont séparés, et après, voilà, ainsi de suite, on est devenu à Engie. Donc ce sont les deux fournisseurs historiques. Et petite histoire, c'est qu'avant, ils avaient le monopole de la vente de l'électricité et du gaz. Et en 2007, il y a eu une ouverture du marché de l'énergie à la concurrence et on a vu l'arrivée progressive de plusieurs fournisseurs alternatifs qui sont venus en fait avec des offres de marché. Alors ça, on a parlé du tarif réglementé tout à l'heure et c'est l'opposition avec une offre de marché où ce sont les fournisseurs qui fixent le prix du kilowattheure. Alors je parle de kilowattheure que ça soit en gaz ou en électricité parce qu'il faut, vous allez voir en fait, quand on regarde une facture de gaz, on ne paye pas des mètres cubes mais des kilowattheures. Alors les index vont permettre de mesurer combien de mètres cubes vous avez consommé sur l'année ou sur la période et on va retrouver sur la facture un petit coefficient de conversion qui va permettre de transformer ces mètres cubes en kilowattheures et que ça soit du gaz ou de l'électricité, on paye donc des kilowattheures.
Donc, les tarifs réglementés, c'était, on va dire, une certaine stabilité. Puis, comment ils sont fixés, en fait, comment l'État...
je ne rentrerai pas dans les détails parce que d'accord. Moi-même, je ne maîtrise pas. Mais effectivement, il y a plusieurs critères. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est la CRE qui décide. Donc, pour le gaz, je crois qu'on revoit ça une fois par mois. Et pour l'électricité, c'est à peu près deux fois par an qu'on va décider de l'augmentation qui va pouvoir avoir lieu. C'est le coût d'achat, en fait, de l'énergie, le coût de production, les taxes. Il y a plein de choses. C'est très complexe. Hein.
D'accord. Et alors, est-ce qu'il y avait des inconvénients à ce tarif réglementé, du point de vue en tout cas des associations de consommateurs comme la CLCV ?
Ah non, du point de vue des associations de consommateurs, non. Parce qu'on a toujours été, nous, pour le maintien, et on aurait voulu le maintien du tarif réglementé de l'énergie, parce que j'expliquais bien que c'est quand même une certaine sécurité, une stabilité, puisqu'il y a le regard de l'État quand même sur ce tarif. Ce n'est pas, c'est pas du commerce, en fait. C'est parce que les tarifs libres, en fait, comme on disait tout à l'heure, les fournisseurs d'énergie alternative vont pouvoir fixer comme ils veulent les tarifs. Là, le fait que l'État ait un droit de regard dessus, ça doit limiter quand même l'augmentation explosive que pourraient prendre certaines offres en fait, au niveau du prix du kilowattheure.
Mais ils sont quand même déréglementés, enfin uniquement pour ce qui concerne le gaz. Alors pourquoi déjà est-ce qu'il y a cette déréglementation ? Qui a demandé, qui a exigé ça ? Et pourquoi seulement le gaz ?
Alors je pense que la demande provient effectivement, dès lors qu'on a des offres de marché, il faut faire jouer la concurrence.
Donc ça vient de l'Europe en fait,
la déréglementation. Oui, la déréglementation. Donc ça a été acté pour le gaz. Le tarif réglementé du gaz va disparaître en novembre. À partir de novembre 2023. Donc, on a encore le temps. Hein. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens s'inquiètent parce qu'ils ont reçu une lettre, en fait, d'Engie, c'est réglementaire, hein, ils ont été obligés de l'adresser. Et pour leur expliquer un petit peu comment ça va se passer, les délais pour que ça se passe, et leur dire qu'ils vont pouvoir faire le choix chez les autres fournisseurs alternatifs.
On va en reparler. En gros, donc, le gaz va être... soumis à la concurrence pure et parfaite, comme on dit.
C'est ça.
Il y a actuellement de fournisseurs de gaz et
De gaz. Alors j'ai su, si je me trompe pas, il doit en avoir une quinzaine à peu près.
Oui, donc on peut quand même imaginer qu'il y aura suffisamment de concurrence pour que les prix ne s'envolent pas, à moins qu'ils s'entendent entre eux, mais à 15, c'est plus difficile de s'entendre qu'à 3 ou 4.
Alors, je ne pense pas que ça va s'envoler, que ça va entraîner... Alors, il risque d'avoir des augmentations, puisqu'effectivement, on ne va plus avoir cette référence qui était le tarif réglementé. Maintenant, ce qui va servir de base, et pour un consommateur en tout cas, c'est que je parlais tout à l'heure de la Commission de régulation de l'énergie, donc la CRE, elle va en fait... on va pouvoir consulter, une fois par mois, le tarif moyen pratiqué par les fournisseurs. Ce qui va nous donner quand même une base pour pouvoir comparer, parce que c'est ça en fait le problème d'un consommateur, c'est dire comment je choisis le contrat ou le fournisseur alternatif chez qui je vais aller. C'est quelque chose de très compliqué, puisqu'à la fois il ne faut pas regarder que la somme qu'on va payer à la fin de l'année, il faut regarder effectivement le prix du kilowattheure, le prix de l'abonnement. Il y a plein de choses en fonction. Après, il y a des offres qui vont permettre, vous avez un compteur Linky pour l'énergie, l'électricité, vous pouvez avoir un compteur Gaspard, parce que ça existe aussi les compteurs communicants pour Gaspard. Donc il peut avoir des offres spécifiques, il y a des offres pour le week-end, il y a des offres selon la consommation. Donc en gaz, c'est un peu moins prenant quand même qu'en électricité, mais on a un nombre d'offres assez important. Pareil, vous allez avoir des offres en tarif fixe, c'est-à-dire qu'on va vous vendre une offre où le prix du kilowattheure, du mètre cube, ne va pas bouger pendant un an, deux ans, trois ans. À voir ce qu'il en est. Ça peut être une certaine sécurité, une certaine stabilité pour le consommateur, ou vous avez des offres à prix variable qui vont fluctuer en fonction du coût du marché.
Et on aura le droit de changer facilement de fournisseur
Oui, alors il y a le principe de la réversibilité, où il est possible effectivement de passer d'un fournisseur à l'autre sans difficulté, quand on veut, sans avoir besoin de faire de démarches, si ce n'est de consulter donc le nouveau fournisseur qui va faire les démarches et faire que la résiliation du contrat précédent va être fait.
Et est-ce qu'on a une idée de la provenance du gaz ? D'un fournisseur à l'autre, ça sera quand même toujours du gaz russe ou est-ce qu'ils ont d'autres...
Alors là-dessus, je pense qu'on peut essayer de regarder sur chaque site de chaque fournisseur. Ils doivent donner les informations d'où il vient le gaz, je suppose. Ça, honnêtement, à mon niveau, je ne saurais pas le dire.
D'accord, c'était juste une question subsidiaire. Et autre question, pourquoi est-ce que l'électricité n'est pas concernée par la fin du tarif réglementé ?
Alors, c'est vrai que ça inquiète aussi les consommateurs qui nous posent la question, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de date et il n'y a pas de décision de prise concernant la fin du tarif réglementé de l'électricité. Je pense que là, on a une intervention du Conseil d'État en France qui a décidé que... L'électricité est un bien de première nécessité. Parce que la différence est entre le gaz et l'électricité, c'est que le gaz n'est pas utilisé par la totalité des consommateurs ou des usagers français, ce qui n'est pas le cas de l'électricité. Donc pour l'instant, il n'est pas question d'arrêter de vendre de l'électricité au tarif réglementé.
Et sinon, quelles pourraient être les conséquences pour les consommateurs de cette déréglementation des tarifs du gaz ?
Les conséquences, déjà d'une part, c'est que les gens vont devoir choisir un contrat, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Beaucoup, en fait, sont restés quand même chez les fournisseurs historiques.
Ah oui, c'est la majorité
On commence à voir depuis 2-3 ans, les personnes commencer à regarder par rapport aux tarifs et à changer de fournisseur et aller vers les fournisseurs alternatifs. Mais au tout début, ça date quand même de 2007, on est en 2020, ça fait quand même un bon moment que le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence. Et la majorité des clients était quand même resté soit pour l'électricité chez EDF, soit chez Engie pour le gaz. Donc maintenant, je pense que ça va inciter un peu plus à bouger. Peut-être que ça va faire jouer encore plus la concurrence. Donc on peut y voir peut-être cet intérêt-là. Maintenant, je pense que c'est la stabilité du marché, le fait de ce repère qu'on pouvait avoir avec un tarif réglementé qui risque en fait d'être négatif, je trouve, dans cette situation-là.
Et il n'y aura pas de guerre des prix, enfin, il ne peut pas y avoir au contraire quelque chose à...
Les tarifs sont libres, justement. Oui. L'État ne va plus intervenir, donc ça pourrait le faire.
Là, ça serait dans l'intérêt des consommateurs, enfin, ça serait moins cher pour les consommateurs s'il y avait une guerre des prix.
Oui, la concurrence a cet intérêt-là. C'est pour ça aussi qu'on a ouvert le marché de l'énergie à la concurrence. Donc, c'est espérer effectivement qu'on tire vers le bas les prix. Maintenant, le problème, c'est que je ne suis pas sûre que ça soit vraiment suivi des faits.
Les consommateurs donc reçoivent déjà maintenant donc des courriers. Là, c'est un courrier qui s'intitule « Votre accord pour partager vos données personnelles sur votre contrat de fourniture de gaz naturel ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce courrier ? Est-ce qu'on doit y répondre ? Voilà.
Bon, alors c'est assez réglementaire en fait. Quand on a acté donc de la fin du tarif réglementé en novembre 2023, donc il a été décidé qu'il y aura une information qui sera faite au niveau des consommateurs. C'est la première information. Il y aura 5 courriers en fait qui vont être adressés consécutivement d'ici 2023 donc aux consommateurs pour justement leur expliquer ce que c'est que la fin du tarif réglementé, ce qu'ils vont devoir faire. Dans ce premier courrier, qui a fait paniquer nombre de consommateurs...
C'est pour ça qu'on en parle. En fait.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'appels dans nos permanences par rapport à ça, où les gens se disent « qu'est-ce que je dois faire ?» C'est pourtant marqué qu'effectivement, la fin du tarif réglementé ne se fera qu'en 2023, mais pour autant, les gens lisent souvent en diagonale, ce qui est humain, et ne voient que ça. Alors, ils nous demandent « est-ce que l'on doit, changer de fournisseur tout de suite ?» Non, vous pouvez, en fait, un consommateur peut tout à fait rester jusqu'en 2023 chez ce fournisseur-là, si c'est son choix. Rien ne l'empêche de commencer à regarder et d'étudier tranquillement, on va dire, les contrats. Donc pour ça, moi, ce que j'incite les consommateurs, c'est d'aller sur le site du médiateur de l'énergie. Vous tapez médiateur de l'énergie dans votre moteur internet et vous allez avoir accès à un comparateur. Et sur ce comparateur-là, on va pouvoir rentrer sa consommation annuelle en reprenant ses anciennes factures. Et le comparateur va nous donner, en fait, par rapport à notre consommation, les offres qui correspondent le mieux. Et puis, on va pouvoir les étudier. Il y aura le contrat, il y aura toutes les informations. Donc, il n'y a aucune urgence et vous pouvez prendre le temps de voir si ça vous convient ou pas.
Oui, parce que 2023, c'est pas tout de suite.
Voilà.
Alors, pour autant, ça sert à quoi cette transmission, ce partage des données personnelles ? Alors, quel serait l'intérêt si on le faisait maintenant ?
Quel est l'intérêt ? Je dirais qu'il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Alors, en tant qu'association de consommateurs, c'est vrai qu'on fait très attention à l'utilisation des données personnelles. Donc là, en fait, ce courrier, il est officiel et ce NG est obligé de le faire de cette façon-là. Et on va être ce qu'on appelle dans une clause d'opt-in. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, pour l'instant, ce qui vous est demandé, c'est est-ce que vous souhaitez que vos données personnelles soient transmises aux autres fournisseurs alternatifs pour qu'ils puissent vous démarcher en soi.
Ah ouais, c'est ça, en fait.
Voilà. Donc, soit vous répondez non, et ça, effectivement, vos données personnelles ne seront pas prises en compte, soit vous ne répondez pas, et le fait de ne pas répondre sera considéré par le fait que vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient utilisées.
Donc on
économise un timbre. Par contre, en 2022, quand vous recevrez, je crois que ça doit être le quatrième courrier qui est prévu d'être envoyé.
Voilà, parce que ça, on va recevoir tous les 6 mois ou par an.
Tout à fait. Ouais. Ce qui est normal, c'est une bonne information. Sur le principe, on peut être que d'accord. Et à ce moment-là, en 2022, on va inverser la donne, on va faire une clause d'opt-out. Et c'est-à-dire que là, si vous ne répondez pas, ça sera considéré comme un oui. Donc là, il faut, si vous ne souhaitez pas à ce moment-là que vos données personnelles soient transmises donc, aux autres fournisseurs alternatifs, il faudra prendre la peine de répondre à ce courrier en disant « je ne souhaite pas que mes données personnelles soient... » Si vous ne le faites pas, ça sera considéré comme une acceptation de votre part.
Mais ça sera en 2022.
Mais ça sera en 2022.
Alors, en attendant, donc, on ne répond pas à ce courrier si on n'est pas intéressé.
Commencer à s'intéresser aux différentes offres et regarder qu'est-ce qui pourrait essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne.
Et si on veut être démarché, eh bien, on répond oui. Voilà, tout simplement.
Oui.
Si on veut que les autres, opérateurs...
Comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent être démarchés. Vaut mieux que ça soit l'inverse, que ça soit vous qui alliez vers les fournisseurs que l'inverse.
C'est ça. Les fournisseurs, donc, certains, je crois, ont commencé à démarcher. Alors, je ne sais pas avec quelles données, mais comment ils font
Alors après, ce n'est pas forcément avec vos données personnelles. Ils prennent, certains, c'est du démarchage à domicile, d'autres, c'est du démarchage téléphonique. Comme de toute façon, ils peuvent y aller franco. Ce n'est pas l'électricité, c'est du gaz. Au pire, ils tombent sur quelqu'un qui, n'a pas de gaz, mais ils pourront lui vendre un contrat d'électricité. Parce qu'il faut savoir que les fournisseurs alternatifs peuvent à la fois vendre les deux. Autant avant, il était électricité, c'est uniquement EDF et GDF pour le gaz. Autant maintenant, l'un l'autre vend de l'électricité ou du gaz, indifférencié, et les fournisseurs alternatifs aussi. Donc, ils peuvent y aller franco, ils prennent l'annuaire. Voilà, et ils tombent sur des personnes et ils essayent de démarcher, ils expliquent comment ça se passe. Et puis, on se retrouve basculé chez un autre fournisseur.
Oui, est-ce que la CLCV a identifié des abus? Je sens que oui.
Oui.
Alors, lesquels?
Plus que par téléphone, on est plus sur des démarchages à domicile où les pratiques de certains fournisseurs ne respectent pas en fait la loi sur le démarchage à domicile, où vous devez avoir une information précontractuelle. Donc on doit vous donner toutes les informations sur le contrat avant de vous demander de signer, de vous engager. Or, c'est régulièrement pas fait, où on ne laisse pas à la personne le temps d'en prendre connaissance pour signer. Et souvent, ce sont des démarcheurs qui sont multicartes. Donc c'est-à-dire que non seulement ils vont vous vendre un contrat d'électricité ou de gaz. Bon, je dirais que ça en soi, c'est pas encore trop trop grave parce qu'on peut toujours, avec le principe de réversibilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, revenir à son fournisseur d'origine. Je vais faire une petite nuance que je dirai tout à l'heure pour le gaz. Mais ils vous vendent aussi des assurances. Et autre. Oui, on l'a régulièrement vu et c'est ça qui nous pose aussi souci parce que là, si la personne signe que les informations ont été à peu près correctement données, on va se retrouver, si le délai de rétractation de 14 jours est dépassé quand la personne vient nous voir, ça peut être pas évident de revenir en arrière sur ce contrat-là.
Ouais, en fait, aussi, ils jouent peut-être aussi l'embrouillamini électricité-gaz.
Les informations, on vient d'Engie, on vient d'EDF. Mmh. Oui, bien sûr, souvent, c'est assez ambigu. Ça ne se passe pas forcément toujours comme on voudrait nous, en fait. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on met toujours en garde les personnes par rapport au démarchage à domicile. Il faut toujours avoir un a priori négatif. On peut prendre les informations si on les laisse entrer, on peut prendre les informations que l'on donne et dire, voilà, vous me les laissez, j'en prends connaissance. Si ça m'intéresse, après avoir comparé avec d'autres offres, je reviendrai vers vous. Si, malheureusement, vous vous êtes senti un peu contraint que vous avez signé, c'est toujours avoir en tête qu'en matière de démarchage à domicile, on a un délai de rétractation de 14 jours. Donc, ne pas hésiter, il y a un bordereau qui doit figurer dans le document qui vous est remis ou que vous recevez par internet, puisque maintenant c'est souvent dématérialisé que vous recevez les documents. N'hésitez pas, faites les démarches tout de suite. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vaut mieux vous rétracter, prendre le temps de réfléchir. Si après, finalement, dans ce cas-là, vous rappelez le fournisseur et vous pouvez souscrire avec lui. Mais souscrire de cette manière-là, c'est jamais une bonne chose quand on n'a pas eu le temps de réfléchir. Et je voulais revenir sur quelque chose.
Le gaz,
oui. Alors, je disais, c'est toujours facile, c'est pas très grave pour, quand vous avez souscrit un nouveau contrat, puisque avec ce principe de réversibilité, vous pouvez rappeler votre ancien fournisseur et dire, hop, je souhaite revenir. La petite différence, justement, avec la fin des tarifs réglementés, c'est que quand vous allez rappeler Engie, qui est le seul à le vendre, comment dire, il va vous dire ah non, c'est plus possible.
C'est ça,
maintenant.
Parce qu'une fois qu'on a quitté le tarif réglementé, on ne peut plus y revenir en fait.
Alors, jusqu'en novembre 2019, c'était encore possible. En l'électricité, c'est tout à fait possible. Oui. Hein. Oui. Mais pour le gaz, c'était possible jusqu'en novembre 2019, sauf que depuis novembre 2019, le tarif réglementé du gaz n'est plus vendu.
Ah ouais.
Autant les personnes qui en bénéficient actuellement peuvent, si elles ne changent pas, en bénéficier jusqu'en 2023. Mais ceux qui quittent maintenant le tarif réglementé et qui décident tout d'un coup « Ah ben non, je veux y revenir », ne pourront pas le faire. C'est juste la petite nuance à ce niveau-là.
Alors, puisqu'on on parle d'énergie, on va rappeler une aide qui existe qui s'appelle le chèque énergie.
Oui, alors on a changé il y a quelques années, ça fait 3 ans à peu près que le chèque énergie est mis en place. Avant, on avait des tarifs sociaux gaz ou des tarifs du TPN, tarif de première nécessité, qui était automatiquement, dès lors que vous aviez des revenus correspondants, était automatiquement déduit de vos factures. Depuis 3 ans, là je crois que ça va être la 4e année, le 4e chèque énergie qui sera reçu en mars à peu près. C'est un chèque que vous recevez. Alors un chèque, c'est un chèque papier, hein, c'est pas un chèque bancaire, mais ce chèque permet en fait de décider si vous avez un ou plusieurs fournisseurs, chez quel fournisseur vous voulez l'appliquer. Donc vous pouvez le faire en ligne, c'est des fois souvent le plus simple, ou vous pouvez l'adresser. On vous donne la liste des fournisseurs et vous l'adressez par courrier donc à votre fournisseur d'énergie pour qu'il le déduise de votre facture. Alors ça pose pas trop de soucis encore, parce que c'est plus automatique. Donc, il y a des pertes en ligne, en fait, où les gens ne savent pas qu'est-ce que je fais avec ce chèque énergie. Donc, ça,
mais
c'est
parce
pas
qu'ils
évident.
Le reçoivent, en fait.
Ils le
ça.
Reçoivent.
Ah oui, d'accord.
Ils le reçoivent en papier. Ce n'est plus quelque chose qui est fait automatiquement en déduction, des factures d'énergie. Avant, ça passait par le fichier de la CPAM, donc tout ce qui était CMU. Mmh. Et dès que vous étiez dans ces tarifs-là, automatiquement, c'était
rabais,
appliqué
quoi.
Par d'accord. les fournisseurs sur les factures. Ça ne demandait pas de démarche de la part du consommateur. Là, on est obligé d'avoir cette démarche. L'intérêt du chèque énergie par rapport au TPN ou au TSS, c'est que vous pouvez l'utiliser pour autre chose que le gaz et autre chose que l'électricité,
ah
c'est-à-dire
oui,
le fioul,
ah oui.
Le bois, voilà, tout autre moyen de chauffage. Ça a élargi les possibilités. Mais le risque, alors on n'a pas trop de recul encore, les bilans nous disent quand même qu'il y a une bonne utilisation qui est faite du chèque énergie, mais je pense que malheureusement, il y a quand même des personnes qui ne le font pas. Et il faut voir aussi autre chose, c'est-à-dire que le chèque énergie, c'est une somme en argent, mais c'est aussi des droits, notamment en cas de coupure, en cas d'impayé ou autre, on a des aides complémentaires, on a des frais en moins. Et si par exemple, vous avez deux fournisseurs, je prends un exemple, je vais donner le chèque énergie à EDF, parce que pour mon électricité, je suis au tarif réglementé. Mais pour le gaz, je suis partie, je ne sais pas, chez Eni, par exemple, eux, ils n'ont pas connaissance, je n'ai pas utilisé le chèque chez eux. Donc, si j'ai des impayés chez eux, je ne vais pas pouvoir bénéficier des droits qui sont accolés au chèque énergie. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est quand vous recevez le chèque énergie, on reçoit un chèque et on reçoit une attestation. Et c'est ça qui est quand même pas suffisamment utilisé. Quand vous avez deux fournisseurs, il va falloir envoyer à un le chèque, il va choisir de le déduire de la facture, mais à l'autre, il va falloir lui envoyer l'attestation pour pouvoir bénéficier des droits qui sont accolés à ce chèque-là.
Mais on ne peut pas couper en deux le chèque, c'est-à-dire...
Non, on ne peut pas décider de mettre une partie sur le gaz, une partie sur l'électricité, ce n'est pas possible. Bon. On doit choisir, quand on a deux fournisseurs, d'envoyer le chèque à l'un, mais celui chez qui on n'a pas envoyé le chèque, il faut lui envoyer l'attestation. Et ça, avec le recul que je peux avoir des personnes que je vois dans mes permanences, cette attestation est régulièrement omise, on ne l'envoie pas, ou on ne comprend pas. Et autre petite nuance, si j'ai encore 2 minutes, c'est que ce qu'il faut faire attention, c'est que le chèque énergie, il est envoyé à l'adresse qui figure sur la déclaration de revenus. Donc si vous déménagez et que vous ne faites pas les démarches au niveau des impôts pour dire que vous avez déménagé et changé d'adresse, le chèque énergie va être envoyé à votre ancienne adresse. Et si vous n'avez pas fait suivre votre courrier ou s'il n'est plus suivi à la date à laquelle le chèque est envoyé, vous risquerez de le perdre. Alors, il est possible de rattraper cela en faisant une démarche pour demander un duplicata, mais ça, c'est assez long et il faut le faire.
Et auprès de qui alors ?
Auprès du service chèque énergie.
Et c'est nominatif quand même, on ne peut pas utiliser le chèque énergie
de
quelqu'un
d'autre. Ce n'est pas un chèque bancaire. Hein,
oui,
donc, non, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste que vous n'en bénéficierez pas. Après, si vous voyez que vous n'avez pas reçu de chèque énergie et qu'au regard de revenus, vous êtes étonné qu'effectivement, que vous n'en ayez pas reçu ou vous aviez reçu l'année dernière et que là, vous n'en avez plus, il faut aussi se rapprocher donc, du service chèque énergie. Hein. Vous tapez chèque énergie sur Internet et vous allez avoir le numéro de téléphone de ce service-là pour qu'il vérifie qu'il n'y a pas une erreur dans l'adresse, dans le nom ou autre, parce qu'il arrive effectivement que, on n'en bénéficie pas. Alors, ce qu'il faut regarder pour pouvoir en bénéficier, c'est évidemment sous condition de revenus, et il faut être assujetti à la taxe d'habitation. Ça ne veut pas dire que vous devez payer la taxe d'habitation, mais que le logement est assujetti à cette taxe. Elle peut être à zéro, hein, parce que vous pouvez être exonéré, mais il faut être assujetti.
D'accord.
Donc voilà, et puis c'est sous condition de revenus, bien évidemment.
Et il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par le chèque énergie ?
Oui, beaucoup, parce que au tout départ, c'est un nombre un peu plus réduit, mais on a augmenté le plafond en fait de ressources. Donc oui, alors je pourrais pas dire là, j'ai pas les chiffres en tête, mais oui, ça représente un certain nombre de personnes. Et si vous ne l'avez pas reçu et que vous pensez que vos revenus vous le permettent, faut pas hésiter à vérifier qu'il n'y a pas eu une erreur. Et dans ce cas-là, il va falloir que vous appuyez le service donc du chèque énergie avec votre numéro, votre référence fiscale. Toujours venir de votre référence fiscale pour les appeler et sur cette base-là, on va pouvoir vérifier.
Bon, et puis après, si vous avez d'autres problèmes, vous contactez
voilà.
La CLCV.
Tout à fait.
Qui ne tient pas encore ses permanences, mais ça va revenir bientôt.
Avec la fin du confinement, pouvoir reprendre nos permanences. Alors, sur la fin de l'année, ça va être un peu compliqué parce que les vacances vont arriver vite. Hein, mais début janvier, j'espère que les permanences vont pouvoir reprendre normalement et pouvoir recevoir à nouveau les consommateurs. Mmh. Sinon, pour l'instant, il ne faut pas hésiter à nous joindre soit par téléphone, soit par mail. On est toujours disponible. On est en télétravail, on ne fait pas de permanence, mais on est là.
Très bien, merci. Puis on va souhaiter à la CLCV de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant une année 2021 plus favorable pour les consommateurs, au moins.
C'est tout ce que je souhaite.
Merci.
Au revoir.
Vous pouvez bien sûr réécouter cet entretien sur notre site internet radioévasion.net et puis sachez que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie reviendra le 15 mars.